Bonjour à tous, Yacouba Ouédraogo avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui au sommaire en cette matinée du mardi 4 juin 2024. Arrivé hier en Guinée, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, poursuit sa nouvelle tournée africaine. Au Sénégal, un militant et un prêcheur condamné par la justice à 3 mois de prison ferme pour diffusion de fausses nouvelles. Le Nigeria ralenti par une grève générale, reprise de négociations sur le salaire minimum. Au Niger, plus de soucis d'électricité à la maternité de Niantala à Niamey.
J'ai les sourires jusqu'aux lèvres. Regardez mes collaboratrices. Des fois, on n'a même pas besoin de mots pour remercier.
Reportage sur place à suivre dans la partie magazine de cette édition. Ici aux États-Unis, le président Joe Biden qualifie pour la première fois Donald Trump de délinquant après le verdict à New York. Et puis en sport, Kylian Mbappé signe enfin officiellement au Real Madrid pour 5 ans. Les détails dans un peu plus de 10 minutes, juste après l'économie. Mais d'abord, le journal. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov est arrivé hier en Guinée. Première étape d'une nouvelle tournée africaine selon les ministères des Affaires étrangères guinéens et russes. Il y a rencontré le président de la transition, Mamadi Doumbouya, lors d'une conférence de presse avec son homologue guinéen, Maurice Sanda Kouyaté. Sergei Lavrov a indiqué avoir discuté, entre autres, de coopération militaire entre Moscou et Conakry, de coopération économique, notamment dans le domaine de l'exploitation géologique et au travers des investissements de la société Russal, plus gros investissement russe en Guinée. Il a fait une déclaration félicitant la Guinée pour avoir été à l'avant-garde du processus de décolonisation. Selon une vidéo diffusée sur le site du ministère russe, selon Afrintos.ru, une agence de presse russe, M. Lavrov est attendu au Tchad mercredi. Le même article évoque aussi une possible étape au Burkina Faso sans donner de date. La justice sénégalaise condamne un militant et un prêcheur à 3 mois de prison ferme pour diffusion de fausses nouvelles après leurs propos ciblant le premier ministre Ousmane Sonko et ses récentes déclarations sur l'homosexualité. Davantage avec Alexandrine Hollognon.
Les deux hommes, jugés en flagrant délit par le tribunal de Dakar le 27 mai, ont en outre été condamnés à payer chacun une amende de 100 000 francs CFA, selon un de leurs avocats, maître El Hadji Amadou Sall. Le parquet avait requis 6 mois de prison ferme contre le militant politique Badi Khaté et le prêcheur Cheikh Hamed Tidiane Dao, poursuivis pour diffusion de fausses nouvelles et offenses à l'encontre du chef du gouvernement, dernier délit pour lequel ils ont été relaxés. Badi Khaté, interpellé le 20 mai par la division des investigations criminelles, s'était livré dans une vidéo à des attaques contre le premier ministre Sonko après une déclaration sur l'homosexualité à l'occasion de la visite, mi-mai, de l'opposant de gauche radicale française, Jean-Luc Mélenchon. Le prêcheur Cheikh Hamed Tidiane Dao, placé en garde à vue le 21 mai, a reproché dans une autre vidéo au Premier ministre ce qu'il dénonce comme de la complaisance vis-à-vis de l'homosexualité. Ousmane Sonko a critiqué ce qu'il considère comme des tentatives des pays occidentaux d'imposer leur mode de vie aux pays africains et de faire pression pour la légalisation de l'homosexualité.
Écoles et aéroports fermés, coupures d'électricité, le Nigeria a tourné au ralenti hier à cause d'une grève générale liée à un désaccord entre syndicats et gouvernement sur le montant du salaire minimum. Les principaux syndicats du pays, le Congrès du travail du Nigeria et le Congrès des syndicats, avaient exhorté les travailleurs à ne pas se rendre au travail après que le gouvernement a refusé d'augmenter le salaire minimum au-delà des 60 000 naira qu'il proposait. Actuellement, le salaire minimum est fixé à 30 000 naira et les syndicats réclament qu'il soit porté à 494 000 naira. Le gouvernement nigérien a publié dans la journée un appel aux syndicats pour poursuivre les discussions afin de parvenir à une solution pacifique. À l'issue d'un entretien, il a été convenu que le président Bola Tinubu s'engage à proposer un salaire minimum supérieur à 60 000 naira et que des réunions entre le gouvernement et les syndicats auraient lieu tous les jours de la semaine à venir pour parvenir à un accord selon un communiqué signé par les ministres de l'Information et du Travail ainsi que par les présidents des deux syndicats. Amnesty International appelle au respect des droits humains par les entreprises industrielles au Congo. Dans un rapport publié ce mardi, l'ONG reproche aux autorités congolaises de ne pas faire le nécessaire pour garantir le respect des droits humains par les entreprises industrielles pétrolières. Ce rapport, basé sur une enquête dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou, analyse les conséquences du déversement de pétrole et d'émissions de fumée sur la santé et la situation socio-économique de communautés locales. C'est ce qu'indique l'Organisation de défense des droits humains qui épingle, entre autres, la Total Energy IP Congo, filiale du groupe français Total Energy, qui a enregistré au moins 3 incidents pétroliers de 1972 à 2011, ayant causé des déversements de pétrole brut dans la lagune de Loubi. La société maintient que les analyses de l'eau menées en 2021 n'ont révélé aucune anomalie, précise le rapport, mais les résultats de ces tests n'ont pas été rendus publics. Une autre entreprise pétrolière épinglée est la chinoise Wenhua, que des habitants accusent de polluer le fleuve Louémé. Les activités de Wenhua ont été suspendues à plusieurs reprises par le ministère de l'Environnement, puis ont repris sans aucune information, communication publique, disons, sur les mesures prises, assure l'ONG. En Afrique du Sud, 12 personnes sont mortes dans les provinces de la côte est ouvertes sur l'océan Indien dans les inondations provoquées par de fortes précipitations accompagnées de vents violents. Selon les autorités locales dans la province de l'Eastern Cape, dans le sud-est, le bilan se dresse à 7 morts, a déclaré le porte-parole de la municipalité de Nelson Mandela Bay. Plus de 2000 personnes ont été évacuées, notamment des familles installées dans des cabanes de fortune de bidonville près de Durban, dans la région voisine du KwaZulu-Natal. Dans l'est, 5 personnes ont malheureusement perdu la vie et des dizaines sont actuellement soignées pour des blessures, a déploré dans un communiqué le gouvernement provincial.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les Palestiniens ont déposé une requête devant la Cour internationale de justice pour se joindre à la procédure de l'Afrique du Sud qui accuse Israël du génocide à Gaza. Selon des documents de la Cour publiés hier, l'Afrique du Sud a porté l'affaire devant la CIJ l'année dernière, alléguant que l'offensive israélienne à Gaza violait la Convention de l'ONU sur le génocide de 1948, une accusation démentie par Israël. Jusqu'à présent, les Palestiniens n'ont envoyé que des représentants de haut rang pour suivre les audiences à La Haye, mais vendredi, ils ont demandé aux juges de les autoriser à se joindre à l'action de l'Afrique du Sud. Et puis le procès pour détention illégale d'armes du fils du président Joe Biden, Hunter, entre ce mardi dans le vif du sujet avec l'ouverture des débats au tribunal fédéral de Wilmington dans le Delaware. Il est accusé d'avoir menti en remplissant des formulaires pour l'acquisition d'une arme à feu en 2018 dans lesquels il niait l'addiction à la drogue qu'il a reconnue par la suite. Hier, la première journée s'est conclue par la sélection du jury. Le jury, justement, devra se prononcer sur 2 chefs d'accusation portant sur des mensonges présumés dans les documents nécessaires à l'achat d'un revolver en 2018 et un 3e sur la possession illégale de cette arme. En cas de condamnation, Hunter Biden encourt jusqu'à 25 ans de prison. Le bureau de Benjamin Netanyahou a nié la présence du premier ministre israélien le 13 juin prochain à Washington pour prononcer un discours devant le Congrès, comme rapporté par des médias américains. Le bureau de M. Netanyahou a déclaré que la date de son discours au Congrès n'a pas été finalisée, mais qu'elle ne serait pas le 13 juin car cela interfère avec des fêtes juives. La victoire historique de Claudia Sheinbaum à l'élection présidentielle du Mexique a été saluée lundi dans le monde et en premier lieu par son mentor, le président sortant, Andrés Manuel López Obrador, qui a confirmé son retrait prochain de la vie politique. Le point avec Rosine Munecero.
C'est vraiment un événement historique et que ce soit clair, quand mon mandat prendra fin, je me retirerai et je ne participerai à aucune activité publique ou politique, a déclaré le président de gauche lors de son habituelle conférence de presse matinale. Des présidents latino-américains à l'Union européenne, le monde a salué la victoire de celle qui prendra le 1er octobre le relais de son mentor pour un mandat de 6 ans jusqu'en 2030. Dans un communiqué publié par la Maison-Blanche, le président américain Joe Biden a salué l'élection historique de Mme Sheinbaum, avec laquelle il devra faire avancer le dossier complexe de l'immigration clandestine à travers leurs frontières communes. « J'espère renforcer nos relations bilatérales sous votre leadership », a réagi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, tandis que le président russe Vladimir Poutine lui a souhaité le succès. Madame Sheinbaum a remporté une victoire écrasante dimanche avec 58 à 60% des voix d'après les premiers résultats partiels. Elle a devancé largement sa rivale de l'opposition, l'ex-sénatrice de centre-droit Xochitl Galvez, qui obtient entre 26 et 28% des voix.
Mexique toujours, la maire d'une localité de l'ouest du pays a été assassinée hier à peine 24 heures après l'élection triomphale de la première femme à la tête du pays, Claudia Sheinbaum, a indiqué le gouvernement régional. Le gouvernement de l'État du Michoacán a condamné l'homicide de la présidente municipale de Cotija, Yolanda Sanchez Figueroa, elle a indiqué le ministère régional de l'Intérieur. Et puis en Inde, le premier ministre Narendra Modi doit décrocher ce mardi un troisième mandat à la tête du pays au terme d'un marathon électoral législatif qui s'est achevé samedi. Le dépouillement électronique a débuté dans les centres électoraux de chaque État. La grande inconnue reste de savoir si son parti nationaliste hindou, Bharatiya Janata Party, obtiendra la majorité des deux tiers à la Chambre basse comme il l'ambitionne. Les opposants au Premier ministre ont surtout été paralysés par des luttes intestines et ont accusé le gouvernement d'instrumentaliser la justice. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Parlons économie. À présent, c'est la Minute Éco présentée par Alexandrine Roloyan.
Les principaux syndicats nigériens ont fermé lundi le réseau électrique national et perturbé les vols dans tout le pays en entamant une grève illimitée pour protester contre l'incapacité du gouvernement à convenir d'un nouveau salaire minimum. La grève a débuté après l'échec des négociations entre le gouvernement et les deux principales fédérations syndicales du pays, le Nigerian Labour Congress et le Trade Union Congress. Il s'agit de la quatrième grève depuis l'arrivée au pouvoir du président Bola Tinubu l'année dernière. Le Fonds monétaire international annonce être parvenu à un accord avec le gouvernement nigérien portant sur les revues périodiques de plusieurs programmes d'aide actuellement en cours, ouvrant la porte au versement de plus de 70 millions de dollars. L'accord doit désormais recevoir le feu vert du conseil d'administration du fonds qui devrait se tenir dans les prochaines semaines, a précisé l'institution dans un communiqué. La Corée du Sud accueille ce mardi des dizaines de chefs d'État africains à l'occasion d'un grand sommet avec l'Afrique. Le pays s'efforce de sécuriser les importations de minerais essentiels et de stimuler les relations commerciales avec l'Afrique. Les abondantes ressources minérales de l'Afrique sont considérées comme importantes à l'échelle mondiale pour des secteurs allant de la fabrication de véhicules électriques à l'industrie de la défense. La Corée du Sud est l'un des plus grands producteurs mondiaux de semi-conducteurs de haute technologie.
Sans transition, les nouvelles sportives avec Eric Manirakiza. Bonjour Eric.
Bonjour Yakuba.
Le Zimbabwe publie sa liste de joueurs convoqués pour les matchs des 3e et 4e journées comptant pour les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 contre les Lesotho et l'Afrique du Sud.
Le rêve du Zimbabwe de participer à une phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA se poursuit avec la phase des qualifications africaines pour l'édition 2026 qui reprendront la semaine prochaine. Les Warriors affrontent le Lesotho le vendredi 7 juin à Johannesburg avant de se mesurer à l'Afrique du Sud le mardi 11 juin à Bloemfontein. Avec 5 participations à la CAF AFCON Total Energy, les Warriors n'ont pas encore pris part à la compétition mondiale qui a été élargie à 48 nations avec 9 places garanties pour l'Afrique plus une place de barragiste. Tiré dans un groupe, c'est difficile, qui comprend également les géants africains du Nigeria, les surprenants leaders du groupe, le Rwanda et le Bénin. Les Zimbabwéens ont bien commencé leur campagne avec un match nul et vierge contre le Rwanda et un match nul en but partout contre les Super Eagles.
En Europe, enfin, Kylian Mbappé signe officiellement au Real Madrid pour 5 ans.
La star du football français Kylian Mbappé s'est officiellement engagé lundi pour 5 ans avec le Real Madrid, club qui le fait rêver depuis l'enfance. Dans un communiqué, le Real Madrid a officialisé l'arrivée pour les 5 prochaines saisons de son nouveau galactique, priorité du géant espagnol qui tente depuis plusieurs années d'arracher à Paris et à la France sa superstar. Les champions d'Europe renforcent leur équipe avec une star mondiale qui a réalisé sa meilleure saison avec le PSG, 44 buts, et a été le meilleur buteur des 6 derniers championnats de France, écrit le club merengue sur son site internet.
Et pour finir, José Mourinho trouve un banc en Turquie.
L'entraîneur portugais arrivé la veille au club Stambouliot de Fenerbahçe se refuse à toute promesse, mais vise la Super League, le titre national. Mourinho a confirmé avoir signé pour 2 ans au club de la rive asiatique d'Istanbul. Son arrivée semble déjà redonner de l'éclat et le moral au Fener, privé de titre national depuis 2014 et qui a échoué cette année encore à ravir la Super League à son grand rival Galatasaray. Les supporters jaunes et noirs ont ovationné l'arrivée du Portugais de 61 ans dimanche, chanté et célébré dans un stade en délire et plein à craquer, où il a signé son contrat sous leurs yeux.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Yacouba Ouédraogo, toujours avec vous, pour vous présenter les dossiers du jour. 9 pays africains figurent parmi les 10 crises de déplacement de population les plus négligées dans le monde selon un classement annuel publié hier lundi par le Conseil norvégien pour les réfugiés. L'ONG publie chaque année une liste fondée sur 3 critères, le niveau de volonté politique de la communauté internationale, de couverture médiatique et de financement humanitaire. Comme en 2022, le Burkina Faso se trouve en première position du classement. Pour un aperçu général de ce rapport, Alexandrine Rolloyon a joint Marine Olivesi, responsable plaidoyer au Burkina Faso du Conseil norvégien pour les réfugiés.
NRC analyse les crises de déplacement qui ont causé plus de 200 000 déplacements internes dans un pays en 2023. Et sur la base de cette liste, essaye de regarder des indicateurs très précis en termes de mobilisation financière, politique et médiatique autour de ces crises. Et donc, on établit un classement sur la base de ces 3 indicateurs. Et cette année encore, le Burkina Faso se retrouve en haut du classement parce que non seulement il y a toujours eu beaucoup de déplacements qui ont eu lieu dans le pays en 2023, mais face à cette crise, il y a eu très peu de mobilisation financière. Il y a environ un peu moins de 40% des financements qui étaient nécessaires pour répondre aux besoins vitaux de la population, qui a été mis sur la table et qui a été rendu disponible. Donc moins de 40%, c'est très peu. Il y a eu quasiment aucune mobilisation politique, diplomatique, internationale pour résoudre la crise. Et enfin, en termes d'attention médiatique, on voit aussi que très peu d'articles, très peu de reportages traitaient la dimension humanitaire de la crise au Burkina. On a fait un point de comparaison, par exemple, pour chaque article écrit sur le Burkina Faso en langue anglaise l'année dernière, il y avait 33 articles qui mentionnaient Taylor Swift.
En clair, qui néglige ces crises? Est-ce la communauté internationale, les États dans lesquels se déroulent ces crises ou les médias?
Alors là, on parle surtout de la communauté internationale dans son ensemble. C'est-à-dire, ça peut être les médias, ça peut être les représentations diplomatiques, ça peut être les organismes qui financent aussi bien la réponse humanitaire que l'aide au développement dans ces pays. C'est tout un ensemble d'acteurs, mais on parle vraiment là de la négligence internationale, on va dire. On sait aujourd'hui, on voit que certaines crises captent énormément d'attention médiatique, politique, diplomatique. On le voit aujourd'hui avec la crise à Gaza, on l'a vu avec la crise en Ukraine. Ce n'est pas pour dire que ces crises captent trop d'attention par rapport à d'autres. C'est pour dire que la souffrance, qu'elle ait lieu à Gaza, qu'elle ait lieu au Burkina, qu'elle ait lieu en Ukraine, devrait susciter le même niveau d'attention médiatique, financière, diplomatique. Et c'est ce qu'on regrette, mais c'est ce qu'on essaie aussi de corriger un petit peu en émettant ce rapport tous les ans pour mettre un petit peu plus de lumière justement sur les crises qui d'habitude passent inaperçues de l'attention internationale.
Alors, quel est le message que vous désirez faire passer avec ce rapport et comment faire pour sortir ces crises de la négligence?
Le message, c'est qu'il est possible de faire plus. Quand on voit des chiffres sur des millions et des millions qui manquent pour répondre à une réponse humanitaire dans un pays, on se dit bon, c'est beaucoup d'argent, mais on sait que quand il y a une volonté politique, on peut trouver de l'argent pour répondre à une crise humanitaire.
Marine Olivesi, responsable plaidoyer au Burkina Faso du Conseil norvégien pour les réfugiés.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Niger, l'électricité demeure un défi majeur avec une production nationale insuffisante pour répondre aux besoins croissants. Les coupures fréquentes affectent gravement divers secteurs, notamment la santé où l'accès à l'électricité est vital. Pour pallier ce problème, des centres de santé comme la maternité Niantala à Niamey ont opté pour des solutions durables en installant des centrales solaires photovoltaïques. Sur place, c'est un reportage de notre correspondant Abdul Razak Idrissa.
Nous sommes à la maternité de Niantala, une des plus fréquentées par les populations du premier arrondissement communal de la ville de Niamey. Elle enregistre par jour une quinzaine d'accouchements, plus de 100 femmes pour des soins de leurs nourrissons. Entre 60 et 80 autres viennent pour des consultations prénatales. Mais comme beaucoup de structures, elle subit régulièrement les interruptions d'électricité en cette période de forte chaleur. Situation compliquée cette année par les sanctions imposées au Niger après le coup d'État militaire.
On a vu la fréquentation diminuer. Pourquoi ? À cause de la longue attente et de la chaleur dans les différents halls d'attente quand il y a coupure. Les agents de santé sont obligés d'utiliser des fois leur portable si jamais elle n'est pas déchargée pour faire les accouchements et les prestations avec.
De pareilles scènes ne seront désormais plus que des souvenirs. Depuis le 13 mai 2024, en effet, l'électricité est disponible de façon permanente dans cette maternité grâce à une mini-centrale photovoltaïque de 18 kW installée par le ministère en charge de l'énergie.
Les hôpitaux et les maternités sont des structures stratégiques et sensibles, peu génératrices de recettes propres. Et donc, les activités sont très tributaires de la disponibilité énergétique. Leur performance et leur crédibilité dépendent en partie d'une garantie de la continuité du service qui, à son tour, est assujettie à la disponibilité électrique.
Cette autonomie énergétique de la maternité de Niantala améliorera les conditions de travail et les indicateurs sanitaires selon le ministre en charge de la Santé publique.
Il y aura certainement un impact positif sur la réduction de la mortalité maternelle et néonatale.
Au grand bonheur des femmes qui la fréquentent, le travail sera donc en continu dans de meilleures conditions à la maternité de Niantala.
J'ai le sourire jusqu'aux lèvres. Regardez mes collaboratrices. Des fois, on n'a même pas besoin de mots pour remercier.
L'électrification solaire de la maternité de Niantala est faite à titre pilote dans le cadre d'un projet d'électrification décentralisée à grande échelle de structures et bâtiments jugés sensibles et ou stratégiques. Abdul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Le Nigeria compte la plus grande population de jeunes au monde, environ 70% des quelques 207 millions d'habitants du pays. Selon le Worldometer, un observatoire de la population, du gouvernement et de l'économie à l'échelle mondiale, mais pendant des décennies, la représentation et l'inclusion des jeunes dans la politique nigériane sont restées faibles, en partie à cause de politiques nationales défavorables et du coût élevé de la candidature au siège politique. Mais certaines organisations de jeunes et associations à but non lucratif tentent de changer cette situation en demandant des sièges réservés et une révision du coût d'acquisition d'un formulaire de candidature. Timothy Obiezu nous en parle depuis Abuja. Récit Gabi Dorsil.
Inspirant politicien Jeffrey Netochukwu Nwokolo dirige la branche jeunesse de son parti politique, le People's Democratic Party, dans sa ville natale d'Ugwoba, dans le sud-est du Nigeria. Cet avocat de 29 ans affirme que ce poste ouvre la voie à son ambition de briguer un siège au Parlement lors des prochaines élections.
Pour l'instant, je ne me suis pas présenté aux élections et c'est tout à fait intentionnel et délibéré. Je crois donc que ma vie est un message et pour moi, il y a une feuille de route que je suis. Mais je crois vraiment que la prochaine fenêtre électorale me verra participer au scrutin.
Les enjeux ne pourraient être plus élevés, selon Nwokolo.
De
1999 à aujourd'hui, ma ville, qui compte plus de 21 villages, n'a jamais produit de commissaire dans l'État. Ma ville a été négligée, que ce soit au niveau de l'Assemblée régionale, de la Chambre des représentants ou du Sénat. Nous n'avons vraiment pas eu de place à la table des négociations. C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter.
Nwokolo espère réussir, mais la représentation des jeunes dans les postes électifs au Nigeria est très faible malgré la jeunesse de la population. L'année dernière, moins de 4% des 360 postes du Parlement ont été remportés par des jeunes, une augmentation d'1% par rapport à l'élection précédente en 2019. Le coût élevé des élections, les barrières institutionnelles et l'apathie sont quelques-unes des raisons qui expliquent la faible représentation des jeunes.
Le coût des formulaires de candidature a continué d'augmenter. Je n'arrive pas à comprendre. Même les partis qui sont censés être au service du peuple vendent leurs formulaires 20 millions à 30 millions de naira. Je ne sais pas quoi dire. C'est l'une des tentatives les plus drôles pour prétendre vouloir résoudre les problèmes.
En 2018, le Nigeria a adopté une loi assouplissant les exigences constitutionnelles strictes relatives à l'âge requis pour se présenter aux élections, afin d'inciter davantage de jeunes à participer. Mais des années plus tard, peu de progrès ont été réalisés, selon Olanihan Sanusi, responsable de programme à l'organisation à but non lucratif Yaga Africa, l'un des groupes pro-démocratie ayant plaidé en faveur de la loi.
Malgré l'entrée en vigueur de la loi Not Too Young to Run Act, les jeunes ont encore des difficultés à mettre en œuvre et à tirer parti de cette modification de la Constitution. Nous avons une série de programmes qui visent à préparer les jeunes qui ont manifesté de l'intérêt à se présenter à des fonctions politiques et il s'agit essentiellement de renforcer leur capacité à mener des campagnes axées sur des questions précises.
Mais en février de cette année, des groupes de la société civile et des leaders de la jeunesse, de divers partis politiques, se sont réunis à Abuja pour exiger l'inclusion de 35% des jeunes dans les rôles électifs et nominatifs. Ils ont également recommandé l'exonération des jeunes candidats quant aux frais d'inscription. Mais pour l'instant, de nombreux jeunes auront du mal à gagner un concours de popularité face à des systèmes qui, selon eux, favorisent un ordre plus ancien.
Ici aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump s'est exprimé dimanche sur la possibilité d'être condamné à une peine de prison le mois prochain après avoir été jugé coupable de falsification de documents commerciaux. Le verdict de culpabilité est déjà utilisé par les campagnes de M. Trump et de M. Biden pour enflammer leurs partisans respectifs. Les détails avec Véronique Balderas Ecclesias, le récit avec Lionel Gaïma.
Il est certes le premier président américain à être condamné au pénal, mais la popularité de Donald Trump n'affaiblit pas du tout. Selon l'un de ses avocats, Will Schauf, interviewé dimanche dans l'émission This Week sur ABC.
La campagne Trump a manifestement battu des records de collecte de fonds aux politiques, notamment auprès de dizaines de milliers de nouveaux donateurs dans les 24 heures qui ont suivi ce verdict. Je pense que le peuple américain voit ce jugement pour ce qu'il était et nous espérons certainement qu'en appel, nous pourrons le faire annuler.
Au cours du procès, les procureurs ont soutenu que Donald Trump a falsifié des documents comptables pour influencer illégalement le résultat de l'élection de 2016 qu'il a remporté. Le verdict de culpabilité ne va pas aider Donald Trump sur le plan politique, en particulier auprès des électeurs africains-américains, déclare le gouverneur du Maryland, Wes Moore, un démocrate qui est apparu sur ABC.
Ce qui va toucher l'ensemble de la communauté, c'est d'avoir une personne, président comme le président Biden, qui se préoccupe réellement de notre avenir.
Dans une interview exclusive diffusée dimanche sur Fox and Friends, Donald Trump s'est exprimé sur la possibilité d'être condamné à une peine de prison ou à une assignation à résidence le 11 juillet.
Je ne sais pas si le public le supporterait. Vous savez, je ne suis pas sûr que le public le supporterait. Je pense qu'il serait difficile pour le public de le supporter. Vous savez, à un certain point, il y a un point de rupture.
La campagne de Joe Biden a publié un extrait de l'interview sur X avec la légende suivante. Trump, condamné pour crime, suggère qu'il y aura de la violence s'il est assigné à résidence. Alors que le président américain Joe Biden devrait s'en tenir à son message selon lequel personne n'est au-dessus de la loi, sa campagne pourrait de plus en plus utiliser le verdict de culpabilité pour attaquer la personnalité du présumé candidat républicain, explique Susan Starks, politologue à l'Université de Chicago, interrogée par Sky.
Son désir d'utiliser son argent, son pouvoir et son influence pour éviter d'avoir à rendre des comptes, on peut s'attendre à ce qu'il se concentre sur ce genre de choses.
Au lieu de juste satisfaire sa base, la campagne de Trump ferait bien de peaufiner sa stratégie pour gagner d'autres électeurs, selon la politologue Susan Starks.
Peut-être des femmes de banlieue qui pourraient être un peu hésitantes sur ce qu'il faut faire en novembre prochain et qui ont besoin qu'on leur donne une raison de regarder au-delà de ce verdict.
Les deux candidats devraient continuer à tenter de convaincre les électeurs indécis à l'approche du premier débat présidentiel prévu le 27 juin.
Voilà, c'est ici que s'achève cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de rester fidèle au programme de VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce